VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous. Le Monde aujourd'hui, édition du lundi 25 février 2019. En direct de Washington, Eric Manirakiza et Anne Albertson. D'abord, le sommaire.
Au Sénégal, le camp de Macky Sall revendique la victoire au premier tour de la présidentielle d'hier.
RDC, décès d'Antoine Gizenga, ancien Premier ministre et compagnon de Patrice Lumumba.
Sommet aujourd'hui au Niger pour contenir le changement climatique dans le Sahel.
Préparatifs et négociations à Hanoï avant le sommet Kim Trump, le dirigeant nord-coréen, est déjà en route vers la capitale du Vietnam.
Le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou.
Et à Hollywood, l'Oscar de la meilleure actrice décerné à la Britannique Olivia Colman pour sa performance dans La Favorite.
Et nous avons en ce moment quelques difficultés techniques, donc nous continuons ce journal par de la lecture, Eric.
Oui, Anne, bien sûr, des problèmes techniques qui émaillent l'édition de ce matin, avant même la proclamation des résultats provisoires attendus cette semaine sur la présidentielle de ce 24 février au Sénégal. Le Premier ministre Mahamad Boune Abdallah Diagne a annoncé la victoire au premier tour du président sortant Macky Sall. Il dit s'appuyer sur les résultats provisoires déjà collectés, des résultats qui, selon lui, donnent Macky Sall vainqueur dans 13 des 14 régions du Sénégal. Cependant, Idrissa Seck et Ousmane Sonko, deux principaux rivaux de Macky Sall, disent qu'aucun candidat ne peut se proclamer vainqueur de l'élection présidentielle dans l'état actuel du dépouillement des suffrages exprimés. Anne.
La déclaration de M. Dion, qui s'exprimait vers minuit, 0 heure temps universel, a déclenché des vivas de la part des militants rassemblés pour l'écouter au siège de la coalition présidentielle à Dakar. Macky Sall, aperçu sur les lieux en milieu de soirée, ne s'est pas exprimé. Les résultats ne deviendront officiels qu'à partir du 25 ou 26 février et un éventuel second tour, compte tenu des délais légaux de proclamation, de possibles contestations et de la campagne, se tiendrait vraisemblablement le 24 mars. S'exprimant moins d'une heure plus tôt lors d'une conférence de presse conjointe, les deux principaux rivaux de Macky Sall avaient mis en garde contre toute proclamation prématurée de victoire du camp présidentiel. À ce stade, un deuxième tour s'annonce et les résultats qui sont déjà compilés nous permettent de le dire, a déclaré l'ancien Premier ministre Idrissa Seck, qui se présente pour la troisième fois à la présidentielle, assis aux côtés du député anti-système Ousmane Sonko. Cette volonté de changement, nous l'avons notée et au regard des premières compilations d'informations que nous avons, vous l'avez majoritairement exprimé en faveur de l'opposition, a ajouté M. Seck, 59 ans, en invitant les Sénégalais à préparer soigneusement le second tour. Dans l'état actuel du dépouillement, aucun candidat, je dis bien aucun candidat, moi y compris, ne peut se proclamer vainqueur de l'élection présidentielle, a ensuite averti Ousmane Sonko, 44 ans. Face à Macky Sall, 56 ans, largement en tête dans de nombreux bureaux de vote selon de premiers résultats, parcellaires égrenés par les médias locaux dans la soirée, les deux hommes paraissaient être les deux seuls à être en mesure de se qualifier pour un éventuel second tour. Les deux autres candidats de l'opposition, le président d'université privée Issa Sall, 63 ans, proche d'un mouvement religieux issu de la confrérie Tidiane, et l'ex-ministre Madi Kenyan, 65 ans, apparaissait très nettement distancé selon ces mêmes données partielles. Sur Twitter, Issa Sall avait estimé plus tôt dans la soirée que le deuxième tour est acté. Je remercie le peuple sénégalais et je félicite les performances d'Idrissa Seck et d'Ousmane Sonko, a ajouté le candidat du Parti de l'Unité et du Rassemblement.
Et si la technique nous le permet, Anne, nous reviendrons justement sur le déroulement de cette présidentielle d'hier au Sénégal. Nous aurons à retrouver dans la seconde partie de cette édition Ibrahima Kan, qui sera l'invité de Abdulrahman Dia. L'ex-président du Ghana, John Mahama, sera le candidat du principal parti d'opposition à la présidentielle de 2020. Il a remporté une victoire écrasante aux primaires du Congrès national démocratique. Il avait été élu en 2012, mais battu en 2016 par l'actuel Nana Akufo-Addo sur fond d'accusations de corruption et d'une économie défaillante. Il a appelé les militants à l'union pour retourner au pouvoir. Et en RDC, Antoine Gizenga n'est plus proche collaborateur de Patrice Emery Lumumba, ex-premier ministre de Joseph Kabila. Monsieur Gizenga s'est éteint hier à Kinshasa à l'âge de 94 ans. Il aura occupé la politique congolaise pendant près de 60 ans. À son actif, le parti Lumumbiste est unifié, l'un des premiers et plus vieilles formations politiques du pays. Anne.
Antoine Gizenga était une bibliothèque, une source intarissable qui nous a beaucoup inspirés, a déclaré Lambert Mende, porte-parole du gouvernement et du Front commun pour le Congo, FCC, la coalition des pro-Kabila. Il a brillé par sa constance les 60 dernières années. Il n'a pas modifié d'un iota son engagement et sa loyauté envers les idéaux de libération et émancipation qu'il avait partagés avec les pères de l'indépendance et Patrice Emery Lumumba. Vice-premier ministre dans le gouvernement de Patrice Lumumba, assassiné en 1961, une année après l'indépendance, Antoine Gizenga a continué à se présenter comme son héritier spirituel à la tête du PALU, le parti lumumbiste unifié, créé en 1964. Nommé premier ministre à l'issue des élections pluralistes après l'indépendance de la RDC, il avait démissionné après 21 mois à la tête du gouvernement. Le chef charismatique du PALU laisse un parti affaibli par des divisions internes. Il était né le 5 octobre 1925 à Gungu, dans l'ex-province du Bandundu. Après l'éviction de Lumumba en juillet 1960 et alors que menaçait la sécession katangaise dans le sud-est, Gizenga fuit Kinshasa pour installer le gouvernement à Stanleyville, devenu Kisangani, dans le nord-est, s'estimant dépositaire de la seule autorité légitime du pays. Il tente en vain de faire reconnaître son autorité sur le plan international avant de regagner la capitale où il sera emprisonné puis placé en résidence surveillée. Il quitte le pays après le coup d'état de Mobutu Sese Seko en novembre 1965 et restera 25 ans en exil en Europe de l'Est.
Merci Anne. Et le président gabonais Ali Bongo Ondimba est parti du Maroc hier vers le Gabon. Il est en convalescence au Maroc et absent de son pays depuis 4 mois. Mais la présidence gabonaise n'a pas souhaité confirmer le retour d'Ali Bongo. D'après la presse locale, le nouveau premier ministre Julien Nkogué Bekele devrait faire son discours de politique générale devant l'Assemblée demain. Mardi, il s'agit de son second tour au pays d'Ali Bongo depuis son AVC le 24 octobre en Arabie Saoudite et n'a fait aucune apparition publique. À la mi-janvier, il avait fait un passage de moins de 24 heures à Libreville pour assister à la prestation de serment du nouveau gouvernement. Très peu d'informations filtrent sur le président gabonais et son état de santé.
Le Niger abrite aujourd'hui un sommet des chefs d'État africains sur le climat. C'est la rencontre de la Commission Climat pour la région du Sahel, mise en place en 2016 au Maroc. Un plan d'investissement sur 12 ans doit être adopté pour faire face au changement climatique.
Malgré un important dispositif policier, plusieurs centaines de personnes ont manifesté hier dans le centre d'Alger pour s'opposer à un cinquième mandat du président Abdelaziz Bouteflika. Les manifestants ont répondu à des appels lancés par des anonymes sur les réseaux sociaux. Selon le site Alger 24, M. Bouteflika est arrivé à Genève dans la soirée pour des examens médicaux.
Vous êtes à l'écoute de La Voix de l'Amérique. Nous avons des problèmes techniques ce matin et donc nous continuons avec l'actualité internationale.
Une rencontre cette semaine entre le président américain et son homologue nord-coréen Kim Jong-un qui est déjà en route.
Oui, Kim Jong-un est accompagné dans son long périple ferroviaire de son bras droit, le général Kim Yong-chol, qui a rencontré Donald Trump le mois dernier à la Maison-Blanche, ainsi que de la sœur et conseillère Kim Yo-jong et d'autres proches collaborateurs, selon l'agence nord-coréenne de presse KCNA. Dans un commentaire incisif dimanche, KCNA a appelé Washington à saisir une occasion historique rare, réagissant au scepticisme exprimé dans les médias et au Congrès des États-Unis sur l'absence de progrès depuis Singapour et les intentions réelles de Pyongyang de se débarrasser de son arsenal nucléaire. Selon Jeong Yong-tae de l'Institut d'études nord-coréennes à Séoul, Prendre le train au lieu de l'avion chinois qui l'avait transporté à Singapour permet cette fois aux dirigeants nord-coréens de marquer son indépendance à l'endroit de Pékin. Plusieurs sources vietnamiennes ont indiqué en privé que Kim Jong-un arriverait au Vietnam par le train jusqu'à la gare de Dong Dang, frontalière de la Chine, avant de gagner Hanoï par la route à 170 km de distance. Cette route sera fermée mardi, ont annoncé les autorités vietnamiennes, et des militaires sont déployés le long du parcours depuis samedi.
Crise humanitaire au Venezuela. 156 membres des forces de sécurité ont déserté et sont passés en Colombie depuis samedi. La tension internationale s'accroît sur le gouvernement de Nicolas Maduro, l'opposant Juan Guaido, qu'une cinquantaine de pays ont reconnu comme président par intérim, a promis une amnistie aux membres des forces de sécurité qui romprait avec le gouvernement Maduro, dont l'armée est le principal pilier. En dépit d'une interdiction judiciaire de sortie du pays, Juan Guaido est arrivé hier à Bogota, en Colombie, où il doit participer à la réunion du groupe de Lima, prévue dans la capitale colombienne aujourd'hui.
Le président Donald Trump s'est dit satisfait de l'évolution des négociations commerciales avec Pékin. Il a ainsi annoncé hier sur Twitter une prolongation de la trêve dans le conflit qui oppose les deux premières puissances économiques mondiales. Washington va reporter une hausse des droits de douane sur plus de 200 milliards de dollars d'exportations chinoises.
La première ministre britannique, Theresa May, a reporté au 12 mars un vote des députés sur l'accord de Brexit. Elle veut se donner plus de temps pour tenter de renégocier le texte avec Bruxelles, malgré l'échéance qui se rapproche dangereusement.
Enfin, en Syrie, des forces soutenues par les États-Unis ont livré 280 djihadistes de l'organisation État islamique aux autorités irakiennes. C'est la fin de ce journal. Notre technicien me signale malheureusement que nous avons toujours les mêmes problèmes techniques. Restez à l'écoute de La Voix de l'Amérique.
le monde aujourd'hui différent de celui dont vous êtes habitué. Nous sommes toujours confrontés aux problèmes techniques. Il y a donc quelques reportages qu'on ne peut pas avoir de nos correspondants. Je suis avec Jean-Roger Bion dans ce studio. Jean-Roger qui m'a rejoint pour votre page des sports. Jean-Roger, on commence d'abord par le football et direction d'Europe. D'abord, Manchester City qui a remporté la Coupe de la Ligue d'Angleterre.
Bonjour Eric, bonjour à tous. Les Citizens ont battu en finale Chelsea 4-3 après le temps réglementaire à Wembley, détenteur de l'édition 2018 de la compétition. Manchester City conserve donc son titre et peut encore rêver d'un quadruplé en fin de saison.
C'était un match spécial de Jean-Roger, l'entraîneur de Chelsea, qui a voulu faire sortir son gardien de but et il a refusé, il est resté dans le match. On revient sur le continent avec la troisième journée de la Coupe de la Confédération et la renaissance de Berkane frappe fort.
Oui, suite à sa nette victoire 4-2 sur la pelouse du Raja Casablanca, tout simplement le tenant du titre grâce à un triplé de l'attaquant togolais Fodo Laba, Berkane solide, leader du groupe A avec 7 points devant Hassania Dagadi, qui est venu à bout des Congolais de Otoho, victoire 2-1. Dans le groupe B, l'étoile du Sahel a dominé Enugu Rangers à Sousse 2-1 après avoir été mené au score. Ce résultat permet à l'équipe entraînée par Roger Lemaire de recoller au CS Faxien qui a été tenu en échec par les Burkinabés de Salitas 0-0.
Et le Zamalek du Caire n'avance toujours pas.
Le monument égyptien qui fait du surplace et qui occupe toujours la dernière place du groupe D après son nouveau nul, un partout face aux Angolais de Petro de Luanda. Le club du Caire n'a que 2 petits points, tandis que les Kenyans de Gormaya dominent toujours cette poule après leur victoire de 2-0 face aux Algériens de Ena Hussein D. Enfin, dans le groupe C, ce sont les Zambiens de Nkana qui dominent grâce à leur succès 3-1 sur le dernier du groupe, les Ghanéens d'Asante Kotoko.
Et en Ligue des Champions, Constantine arrache le nul contre Ismaili.
Réintégré dans le groupe C, Ismaili a été contraint au partage de points à Alexandrie par le CS Constantine dans un match en retard comptant pour la troisième journée. Score 1-2. Ce point arraché permet aux Algériens de rejoindre le TP Mazembe en tête du groupe avec 7 points en attendant le match retour qu'ils vont jouer à domicile samedi prochain.
Le tirage sort des groupes du Mondial 2019 des moins de 20 ans et le Mondial se tiendra en Pologne. On a eu le tirage au sort hier.
Oui, et les 4 pays africains qualifiés pour l'événement savent ce qui les attend au premier tour. Le Sénégal est tombé dans le groupe A avec la Pologne, pays organisateur, la Colombie et Tahiti. Le Nigeria se frottera au Qatar, à l'Ukraine et aux États-Unis dans le groupe D. Le Mali va affronter le Panama, la France et l'Arabie Saoudite dans le groupe E. Enfin, l'Afrique du Sud va retrouver le Portugal, la Corée du Sud et l'Argentine dans le groupe F.
Cyclisme pour terminer cette page sportive. C'est la première étape du Tour du Rwanda qui a eu lieu hier, dans les rues de Kigali, le Rwanda, c'est le pays des 1001 collines, Jean-Roger.
Tout à fait, avec un critérium de 112,5 km, 78 coureurs au départ. Et c'est le jeune Italien Alessandro Fedeli qui s'est imposé devant l'Érythréen Jacob Debessé. Il prend du coup le maillot jaune en attendant la seconde étape prévue ce jour entre Kigali et Yaoundé, longue de 120,3 km. Et puis basketball avec les qualifications pour le Mondial 2019 en Afrique qui ont pris fin hier à Korogo. L'enjeu, c'était les 2 derniers tickets qualificatifs qui sont allés au Sénégal et à la Côte d'Ivoire. On parlera de la NBA dans nos prochaines éditions.
Oui, Jean-Roger, pour revenir sur cette première étape du Tour du Rwanda, eh bien, la seconde étape est prévue entre Kigali et Huye. C'est le département de Huye. Voilà, c'est tout pour les sports. Nous revenons dans quelques instants. page culture de cette édition, la 26e édition du FESPACO, Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, bat son plein à Ouagadougou, dans le pays des hommes intègres. Cette édition, lancée samedi, marque le cinquantenaire du plus grand festival de films sur le continent. Et retour ici aux États-Unis, précisément à Hollywood, pour découvrir le rose triomphe sur le tapis rouge des Oscars. Olivia Colman a décroché l'Oscar de la meilleure actrice comédienne à la trajectoire fulgurante. Olivia Colman a la particularité d'avoir déjà interprétée de reine sur les écrans dans la souveraine britannique Elizabeth II. Hollywood récompense Olivia Colman pour son rôle dans le film La Favorite, où elle campe une reine Anne d'Angleterre à la santé fragile et au caractère instable au cours d'une lutte de pouvoir entre sa conseillère et sa servante, interprétée par Rachel Weisz et Emma Stone. L'acteur américain Mahershala Ali a reçu l'Oscar du meilleur second rôle masculin pour son interprétation du pianiste noir Donald Shelley dans le film Green Book sur les routes du Sud. C'est tout pour la page culture. Et pour revenir sur l'actualité de ce lundi 25 février 2019, eh bien, on attend toujours les résultats provisoires de la présidentielle au Sénégal. Le scrutin qui a eu lieu ce dimanche, c'était hier, eh bien, le président sortant Macky Sall à travers son premier ministre, a revendiqué déjà la victoire au premier tour, mais cette victoire est rejetée par les deux principaux opposants qui se disputent les trois premières places. C'est notamment Idrissa Seck et Sonko. Eh bien, on attend. Les résultats provisoires devraient être annoncés demain, mardi. Et au Nigeria, le décompte des voix se poursuit après la présidentielle de samedi qui s'est déroulée globalement dans le calme. Les deux favoris, le président sortant Muhammadu Buhari et l'opposant Atiku Abubakar, revendiquent la victoire, mais aucun résultat officiel n'a été annoncé, d'après ce que nous a dit notre correspondant sur place, Gilbert Tamba, depuis Abuja. Vous l'avez suivi en RDC, Antoine Gizenga n'est plus. Il était une bibliothèque, une source intarissable qui nous a beaucoup inspiré, a déclaré Lambert Mende, le porte-parole du gouvernement et du Front commun pour le Congo, la coalition des pro-Kabila. D'après Mende, M. Gizenga a brillé par sa constance les 60 dernières années. Il n'a pas modifié d'un iota son engagement et sa loyauté envers les idéaux de libération et émancipation qu'il avait partagés avec les pères de l'indépendance et Patrice Emery Lumumba, vice-premier ministre dans le gouvernement de Patrice Lumumba, assassiné en 1961. Une année après l'indépendance, Antoine Gizenga a continué à se présenter comme son héritier spirituel à la tête du PALU, parti lumumbiste unifié créé en 1964. Nommé premier ministre à l'issue des élections pluralistes après l'indépendance de la RDC, il avait démissionné après 21 mois de la tête du gouvernement. Après l'éviction de Lumumba en juillet 1960 et alors que menaçait la sécession katangaise dans le sud-est, Gizenga fuit Kinshasa pour installer le gouvernement à Stanleyville, devenu Kisangani, c'est dans le nord-est du pays, s'estimant dépositaire de la seule autorité légitime du pays. Il tente en vain de faire reconnaître son autorité sur le plan international avant de regagner la capitale où il sera emprisonné puis placé en résidence surveillée. Il quitte le pays après le coup d'état de Mobutu Sese Seko en novembre 1965 et restera 25 ans en exil en Europe de l'Est. Je vous le disais, le président Ali Bongo Ondimba devait rentrer aujourd'hui à Libreville, en provenance du Maroc. Monsieur a dit, d'après la presse locale, le nouveau Premier ministre Julien Nkongé Bekele devrait faire son discours de politique générale devant l'Assemblée demain mardi. Il s'agit du second retour au pays d'Ali Bongo depuis son AVC le 24 octobre en Arabie Saoudite et n'a fait aucune apparition publique. À la mi-janvier, il avait fait un passage de moins de 24 heures à Libreville pour assister à la prestation de serment du nouveau gouvernement. Très peu d'informations filtrent sur le président gabonais et son état de santé. Le Niger abrite aujourd'hui un sommet des chefs d'État africains sur le climat. C'est la rencontre de la commission climat pour la région du Sahel, mise en place en 2016 au Maroc. Un plan d'investissement sur 12 ans doit être adopté pour faire face au changement climatique. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre oreille attentive. Nous nous excusons encore une fois pour ces problèmes techniques qui ont émaillé le bon déroulement de cette édition. Nous allons y revenir dans 30 minutes. À tout à l'heure.